Le fort médiéval de Paphos. Le fort de Nea Paphos, situé à l'ouest du port, fut construit au milieu du XIIIe siècle par les Lusignans afin de remplacer le château aux 40 colonnes qui se situe environ 600 mètres plus au nord-est. Il s'agit d'un petit fort, bâti tout entier en pierre calcaire taillée. Il n'y a qu'une entrée à l'est et ses murs sont percés de fenêtres de très petite taille. La partie centrale comprend une grande tour bordée d'une cour close. Peu après 1570, les Vénitiens ont démoli le fort pour qu'il ne soit pas utilisé par les Turcs ottomans, dont l'invasion sur l'île de Chypre était anticipée. C'est en 1592 que le fort est restauré par les Turcs, selon une inscription turque figurant au-dessus de la porte d'entrée. De ce côté du port, on peut voir les vestiges d'une seconde forteresse qui aurait été construite en même temps que la forteresse existante. Allons faire un tour dans le temps pour nous rendre compte du rôle important que le fort a joué dans la défense de l'île, notamment pendant le Moyen Âge, de 1192 à 1489. La situation géographique particulière de l'île de Chypre, dans l'espace maritime du territoire byzantin, et les visées du monde islamique émergent depuis 649, transformèrent cette île, ainsi que la zone maritime alentour, en théâtre de concurrence féroce entre les deux superpuissances de l'époque, c'est-à-dire entre Byzance et les Arabes. C'est pourquoi Chypre se trouva au point de rencontre de ces deux mondes et à l'avant-poste de la mer byzantine. Cela explique aussi pourquoi l'île devint la première cible des expéditions maritimes arabes qui ont débuté sur l'île avec l'invasion de Chypre en 649. Les invasions des Sarrasins, source de nombreux maux et de dommages incalculables, se poursuivirent pendant plus de 3 siècles. Les dangers réels qui menaçaient l'île ont mis l'accent sur l'urgence de renforcer les fortifications existantes ainsi que de construire de nombreux ouvrages défensifs le long de la côte. Cela explique sans doute la construction de 3 nouveaux forts pendant la deuxième moitié du 7e siècle. Ceux de Cantaras, Buffavento et Saint-Hilarion, car pour des raisons de sécurité, Chypre fut obligée de maintenir des forteresses tant sur la côte sud que sur la côte ouest. La protection de Paphos était assurée par un fort et quelques tours dès le début du 7e siècle. Même si la ville de Paphos n'était plus la capitale de l'île, elle demeura le siège du diocèse et une des villes les plus importantes de l'île. La première invasion arabe de 649 a ravagé l'île. Les maisons furent pillées, les enceintes et la forteresse sont tombées en ruines et les églises ont été complètement détruites. On raconte qu'une seule église a été sauvée, la petite église de Panaya Theoskepasti, construite sur une élévation à Katopaphos, ville basse, environ à 800 mètres du fort. Theoskepasti signifie « caché par Dieu » et selon la tradition, Dieu aurait envoyé un nuage pour protéger l'église. Selon diverses sources, l'île de Chypre a subi 24 invasions arabes jusqu'en 965. Mais tout s'est arrêté avec la reconquête de l'île par les Byzantins au cours du règne de Nicéphore Phocas. L'île connaît une période de tranquillité pendant laquelle de nombreuses personnes connues sont venues et sont décédées à Paphos. Par exemple, le roi danois Éric Ier Eigot, toujours bon, Welf Ier de Bavière, duc de Bavière au début du XIIe siècle, et Amédée III de Savoie, duc de Savoie, en 1148. Selon saint Néophyte le Reclus de Chypre, 1134-1219, à part la forteresse, il y avait aussi un arsenal. Les pillages recommencèrent avec la conquête de l'île par le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion en 1191, selon le voyageur Jacques le Sage. Au cours de la domination franque, et en particulier au XIVe siècle, la ville de Paphos fut ravagée et pillée à plusieurs reprises par les Génois. Ce sont eux qui élevèrent les forts de Paphos et les environnèrent d'un fossé qui fut rempli d'eau de mer afin de les rendre imprenables, selon le chroniqueur chypriote Léonce Macheras. Ces 2 châteaux forts sont aussi mentionnés par de nombreux autres voyageurs qui visitèrent Paphos lors de la domination franque et vénitienne, 1192-1571. nous savons par le chronographe vénitien Marino Sanuto qu'il y avait deux châteaux forts à l'entrée du port de Paphos. Cependant, en 1491, le voyageur allemand Dietrich von Sachsen ne parle que d'un fort, car l'autre avait été détruit par un violent tremblement de terre 2 mois avant son arrivée sur l'île. 50 ans plus tard, les deux châteaux forts sont abandonnés pour des raisons financières. Il n'y a qu'une garnison. L'un des forts est complètement effondré, d'après le voyageur tchèque Oldřich Prefat, car en 1546, il parle d'un seul fort au quadrilatère. En 1571, au cours du règne de Selim II, l'armée ottomane envahit l'île de Chypre et un pacha turc fut nommé gouverneur. La ville de Paphos abritait le siège du juge régional, Kadi, et ensuite le siège du métropolite de Paphos. Personne ne s'intéressa à la restauration de la forteresse de Paphos jusqu'en 1592, lorsque le Beyler Bey, ou gouverneur, Ahmed Pacha, entama des travaux de réparation qui aboutirent à l'édifice actuel. Plusieurs voyageurs mentionnèrent dès lors les vestiges qui entouraient la forteresse et parlait avec mépris du fort de Paphos. En 1815, William Turner nota le mauvais état du fort. La période de la domination britannique succéda aux années sombres de la domination ottomane. En 1878, le fort de Paphos fut dépourvu de son équipement militaire. Le drapeau britannique fut hissé et l'endroit fut désormais utilisé comme dépôt public de sel que les caïques transportaient du lac Salé. 20 ans plus tard, la canonnière Le Hussard emmena Sir Garnet Wolseley à Paphos, un événement qui marqua l'histoire marine de l'époque. En sa qualité de haut-commissaire, gouverneur de Chypre, il visita le fort et les dépôts, et puis il alla à cheval jusqu'à Ktima, la ville moderne de Paphos, à la préfecture, où il fut reçu avec une grande solennité. À l'époque, les 3 grands dépôts en pierre de la douane entouraient le fort, et était utilisé pour le stockage de produits locaux ou importés. Actuellement, ces bâtiments sont restaurés et fonctionnent comme tavernes, magasins et salles d'exposition.